Il y a toujours un de ces foutus sous-officiers pour nous rappeler qu'on ne doit pas se plaindre parce qu'on touche 25 centimes par jour. Râlez pas, qu'ils disent tous. En temps de paix, c'était 1 centime. Ah, les salauds, ça leur va bien de parler de ça. Surtout quand on sait que le plus bête des sergents gagne presque 10 fois plus que nous. Alors, qu'est-ce que ça doit être pour les officiers? Nous, c'est pas compliqué, il nous faut quasiment 2 jours de solde pour acheter un paquet de tabac. À ce tarif, il ne faut pas trop fumer. Et vu ce que demandent les escrocs de l'arrière, les profiteurs de guerre, on doit trimer plus d'une semaine pour se payer 1 litre de mauvais rouge. Un pinard sûrement coupé, ou encore un jus de moût refermenté avec de l'eau, un peu de sucre et de la levure. Alors, 25 centimes par jour, c'est pas cher payé pour aller se faire trouer la peau et n'avoir pour récompense que 8 jours de perme quand il leur tombe un œil à ces planqués de l'état-major. Oui, ces permes beaucoup trop courtes, sûr que c'est calculé pour mieux nous tenir et nous empêcher de déserter. C'est infamant tout ça. En plus, chaque fois qu'on revient et qu'on n'en peut déjà plus de cafards et qu'on aurait bien besoin de retrouver les amis, il en manque toujours à l'appel. Toujours. À ma première permission, alors que ce pauvre Édouard et moi étions déjà dans le noir en nous souvenant de tout ce que nous venions de laisser là-bas, c'est Octave Deplat, le forgeron de Cressensac, qui nous a appris qu'Edmond, notre vieux copain curé, s'était fait tuer la veille. Un de ces salauds d'en face avait eu sa peau alors qu'il regagnait son poste à l'infirmerie. Il n'avait pas assez baissé la tête à un mauvais passage, et une de ces pourritures de tireurs d'élite nous l'a expédié chez son bon Dieu, avec une balle dans la tête. Faut croire que celui-là non plus n'aime pas ses troupes. Il doit être comme nos putains de galonnés. Il s'en fout de ces curés, comme les généraux de nous. La preuve, leur tonsure ne lui suffit pas. Il veut en plus qu'il y ait un trou dedans. Il était pourtant pas méchant, notre ami Edmond. Et lui, au moins, il était là pour essayer de sauver les gens, pas pour les tuer. Ah oui, belle récompense. Au lieu d'être infirmier, il aurait mieux fait d'être artilleur pour en flinguer le plus possible des fumiers d'en face. Comme ça, au moins, il ne serait pas parti tout seul. Quand je suis rentré de ma seconde perme en novembre de l'an passé, ça a été pour apprendre que ce pauvre bougre de Séraphin Bordard, de chez nous, de Costeblanc, venait de laisser sa peau sous près de 10 mètres cubes de gadou. Les copains et lui étaient du côté de Capelle-Fermont en Artois. Là-bas, comme partout, il pleuvait depuis des semaines. Tout s'effondrait, coulait comme de la boue au printemps quand on remet les vaches à l'herbe. Séraphin et les autres essayaient de remettre les tranchées en état. Elles étaient pleines de boue. D'y installer des caillebotis, des fagots, de refaire les banquettes de tir. Tout un pan s'est écroulé d'un coup sur Séraphin. Le temps de déblayer pour le sortir de là, il était mort. En août dernier, quand j'ai retrouvé les copains à Poissy, ça a été pour apprendre que le caporal Chava, des Cletons, un brave bougre, pas méchant, avait quasiment été volatilisé par un Minenwerfer, cette saloperie de près de 100 kilos d'explosifs. Quant à ce pauvre Deplat, le forgeron de Cressensac, il ne valait guère mieux avec son bras coupé quasiment à l'épaule. Comment il fera maintenant pour manier la masse à frapper devant, ou pour actionner son soufflet d'une main tout en tenant sa pièce au feu de l'autre? Fini la forge pour lui. D'un autre côté, même abîmé comme il l'est, il a quand même sauvé sa peau. Maintenant, il est à l'abri. C'est déjà ça. Tout compte fait, c'est peut-être bien lui qui a de la chance. À 7 heures, il doit être tranquille chez lui. Après un bon chabrol et un bon dîner, il s'est glissé au lit. Maintenant, il est bien au chaud et au sec sous son édredon, et son bras en moins ne l'empêche pas de caresser sa femme, et même plus s'il en a envie. Ah, d'accord, c'est le bras droit qu'il a laissé au bois d'Audremont, pas loin de ce coin pourri de Douaumont, mais il lui reste toujours le gauche et la vie. Et après s'être occupé de sa femme, il peut dormir, lui. Dormir. Le vénard. C'est pas comme moi, se dit Jean en se secouant vivement, car il venait de réaliser que ses paupières s'abaissaient de plus en plus, tandis que sa tête penchait lentement vers l'avant. Faut pourtant que je tienne encore un peu le coup. Mais à quand la relève? Bon Dieu, que c'est long, 2 heures! Et si encore je pouvais savoir l'heure? Pensa-t-il, en touchant dans sa poche l'oignon que sa mère lui avait offert pour sa première communion en juin 1894. Mais sa montre ne pouvait lui être d'aucun secours, car nulle parcelle de sel de radium n'avait jamais imprégné son cadran pour le rendre lumineux. Peut-être que le gamin d'à côté a un bracelet montre moderne qui donne l'heure même la nuit. Je vais aller le voir, ça me réveillera, se dit-il en progressant dans la boue. Mais bon Dieu, où est-il ce gosse? Se demanda Jean après avoir parcouru les quelques 25 mètres qui le séparaient de Louis Vergne. Puis il découvrit l'espèce de bauge dans laquelle le jeune s'était recroquevillé. Ma parole, il roupille ce salaud! Comprit-il en entendant le souffle profond et régulier qui émanait du trou boueux. Il retint son premier réflexe qui le poussait à expédier un grand coup de pied dans les côtes du dormeur, histoire de lui rappeler qu'une sentinelle était là pour veiller, pas pour rêver. Puis il se souvint à quel point lui aussi luttait contre le sommeil depuis presque 2 heures, et eut pitié. D'ailleurs, si les autres pourris d'en face avaient tenté un sale coup, moi je les aurais vus. Bon sang, c'est pas croyable à quel point il dort. C'est vrai qu'à cet âge, on roupille n'importe où, la preuve. Mais il faut quand même que je le réveille. Si la relève le trouve dans cet état, ça va barder, pensa-t-il en lui posant doucement la main sur l'épaule. Surpris, Louis Vergne sursauta et brandit son lebel jusque-là planqué contre lui. C'est quoi? Balbutia-t-il d'une voix beaucoup trop forte. Ta gueule! Chuchota Jean. Allez, lève-toi! Mais tu sais ce que tu risques à roupiller pendant ton tour de garde? Tu le sais? Ouais, mais c'est ton torboyau derrière le pinard qui m'a assommé. Et en plus, j'ai tellement sommeil, s'excusa le jeune en bâillant. Et moi donc? Pensa Jean qui insista. Tu sais ce que tu risques? Mais oui, ce connard de sergent Flécalny nous le serine tous les jours ou presque. Parle plus bas. D'accord, comme tu dis, Flécalny est un connard. Mais il n'est pas trop méchant, lui. S'il te surprend, il te collera juste un ou deux tours de garde supplémentaires. Mais il oubliera le règlement. Tu le connais au moins, le règlement. Ouais, sommeil d'un factionnaire en présence de l'ennemi, 2 à 5 ans de travaux publics. Article 212, récita Louis Vergne. Exactement. Et là, tu t'en sortais plutôt bien. Mais si l'adjudant-chef Véliroux avait été à ma place, tu étais bon. Lui, il te coinçait carrément pour abandon de poste devant l'ennemi avec l'article 213. La mort. Parce que lui, c'est une vraie pourriture. Ben oui, la mort. Et alors? Là au moins je dormirai et je n'aurai plus peur, murmura le jeune en s'adossant à la paroi de glaise ruisselante, car déjà le sommeil le reprenait. Réveille-toi, bordel! Gronda Jean en le secouant. Parce que même si aucun de ces fumiers de sous-off ne vient te coller un motif, il suffit qu'un boche arrive à se glisser jusqu'à toi, et tu ne t'apercevras même pas qu'il t'égorge. Tu m'as dit qu'ils ne pouvaient pas venir, faudrait s'entendre. Bon, d'accord, ils ne peuvent pas. Mais réveille-toi quand même, nom de Dieu! Tiens, prends un coup de gnôle, insista Jean en lui tendant sa gourde. Bois et remue-toi! J'en ai marre de remuer, je veux juste dormir. Dormir! Balbutia le garçon en portant la gourde à ses lèvres. Il but longuement, éructa sans discrétion et rendit le bidon. Je crois bien que je te l'ai presque fini, ta saloperie, s'excusa-t-il. Pas grave, mais je t'ai déjà dit de ne pas gueuler si fort. Bon, moi je suis juste venu pour savoir l'heure. Comment veux-tu que je le sache? J'ai pas de montre. Ah, j'avais pensé, murmura Jean. Puis il constata que son voisin tentait de se reglisser dans la niche boueuse d'où il venait de le sortir. Te remets pas là-dedans ou tu vas t'endormir, dit-il en le secouant vivement. Bah, au moins, quand je dors, j'ai pas la trouille. Cette saloperie qui me tord les tripes. Faut pas dormir, je te dis. Allez, on ne doit pas en avoir pour plus d'une demi-heure. Tiens, marche un peu avec moi. Dans cette merde, Merci bien, j'en ai déjà jusqu'aux genoux.